الشيكو كدي كدي يا يلو 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 قبيلة هضموش ومنك غايرين يلو 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 يدبر 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 يا ليتين ويومين وما بردو جنون وسلمي وفرشي وعنقي وعنقي وسلمي وزيري
Il y a la radio HDR, HDR comme Aude Rouen, on y entend des choses qu'on entend nulle part ailleurs.
On a quelque chose à dire, on a envie de faire passer des messages, de dire les choses, ne pas laisser toujours les mêmes parler à notre place.
Une radio de l'audiovisuel associatif.
Une radio qui devait s'appeler La Connexion des Frères, non ? À l'origine, non.
Quand on parle
de Saskia Cousin et Marie-Laure Desmé.
Géopolitique, tout à l'heure à 17h10 TU sur RFI.
Il est minuit à New York, 4h en temps universel, vous écoutez Radio France Internationale. Le journal Gaëtan Plenet, bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Fashion faux pas à la une, un maillot de foot s'apprête à être démodé.
Et soit celui de l'Espagne, soit celui de l'Argentine. Sur l'un d'eux, ce soir, il manquera une étoile qu'il faudra très vite rajouter. Finale de la Coupe du Monde masculine de football que l'on suivra évidemment sur nos antennes africaines. On est au Canada dans ce journal, on va faire un point sur les centaines d'incendies qui sont en train de ravager le pays. On sera aussi en Ukraine, nouvelle manifestation hier soir à Kiev pour protester contre le départ du ministre de la Défense. Au menu également les soldats qui manquent dans l'armée israélienne et puis la présidentielle à São Tomé et Principe, c'est ce dimanche. On dirait presque un score de tennis, sauf que c'était bien du football. Et ça fait 6-4 pour les Anglais en petite finale face à la France. Un match un petit peu fou. Les Three Lions ont très très largement dominé en première période, menant 4-0 avant un sursaut français qui cependant n'aura pas suffi. L'Angleterre termine troisième de la Coupe du Monde et l'attaquant français Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, se console avec un record, celui du nombre de buts inscrits lors d'un mondial, lors des mondiaux plutôt, 22 au total. Un record, cela dit, qu'il ne conservera peut-être pas très longtemps. Ça dépendra de la forme du jour d'un certain Lionel Messi qui, lui, en a déjà inscrit 21 et qui aura une chance d'en inscrire d'autres encore ce soir. Finale de la compétition, l'Argentine, en quête d'un quatrième sacre, affronte l'Espagne qui, elle, n'en a qu'un seul au compteur. Ce sera 19h en temps universel. Et à Madrid, on trépigne d'impatience. Correspondance de Diane Cambon.
Gonflés à bloc, les supporters espagnols sont conscients du défi qui les attend ce soir. La Roja a démontré au cours du mondial que l'équipe a toutes ses chances de son côté. C'est ce que veut croire Unai, âgé de 18 ans, et qui ira place Colonne dans le centre de Madrid suivre le match.
L'Espagne a joué et a démontré que son talent lui permettait d'avoir une vision du début jusqu'à la fin du match. Et c'est donc avec une totale confiance que l'équipe va affronter son rival aujourd'hui. On a beaucoup d'espoir, car si on réussit à battre la France et que l'on est arrivé jusqu'ici, eh bien l'Argentine, cela représente une équipe de plus et rien d'autre. Oui, on peut gagner.
Pedro, la cinquantaine, se montre aussi très confiant sur le jeu de la sélection espagnole.
L'Espagne est très puissante. Nous avons pratiqué le meilleur football qui s'est joué durant ce mondial et on est prêt à vaincre les Argentins sans aucun doute.
Pour Nicolas, c'est une question d'équipe. La Roja est très soudée.
C'est une sélection très jeune qui agit vraiment comme une équipe avec une solidarité totale. On a une très bonne défense, celle qui a reçu le moins de buts de tout le mondial. Et puis, on a Lamine Yamal, qui est notre grande star.
Avec une équipe unie et sûre d'elle, l'Espagne espère remporter son second titre de champion du monde. Diane Cambon, Madrid, RFI.
Espagne-Argentine, ce sera donc à partir de 19h en temps universel, en direct et en intégralité sur nos antennes africaines. La maîtrise espagnole ou la rage argentine, une finale pour une nouvelle étoile, ça c'est un article à lire sur RFI.fr. Une finale au MetLife Stadium, un stade ciel ouvert du New Jersey en banlieue de New York. New York frappé par des orages depuis quelques heures et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le match car ça devrait permettre de réduire un petit peu la pollution de l'air qui se matérialise par un épais nuage de fumée venu du Canada où des incendies font rage. Ça a d'ailleurs énervé Donald Trump qui a accusé son voisin de négligence dans l'entretien de ses forêts. Des critiques absolument inacceptables dénonce le dirigeant de la province canadienne de l'Ontario. Au total, plus de 950 brasiers sont actifs dans le pays. Plus de 200 sont hors de contrôle avec une situation particulièrement critique dans le centre du Canada. On fait le point avec notre correspondante à Montréal, Nafi Alibert.
Après un début de saison plutôt calme, les incendies ont explosé ces deux dernières semaines au Canada et c'est dans le nord de l'Ontario que la situation est la plus critique. Près de la moitié des 190 feux qui font rage ne sont pas maîtrisés. Les plus exposés sont souvent des communautés autochtones isolées. Dans l'une d'entre elles, le feu a presque entièrement détruit un village en moins d'une heure. Alors le premier ministre ontarien, Doug Ford, invoque un incendie d'une violence sans précédent et assure que son gouvernement a fait tout son possible. Mais plusieurs chefs autochtones accuse la province de les avoir abandonnés. Deux nations ont dû, par exemple, organiser elles-mêmes l'évacuation de leurs habitants. Le Premier ministre est aussi accusé par l'opposition d'avoir sous-financé la lutte contre les feux, tandis que le syndicat des pompiers dénonce quant à lui un manque criant d'effectifs. Doug Ford promet désormais de nouveaux aéronefs et davantage de personnel, mais dans le nord de la province, ces renforts arrivent après les évacuations improvisées et parfois après que les flammes ont déjà tout emporté. Nafia Libère, Montréal, RFI.
Au moins un mort à Kiev après une nouvelle nuit marquée par des frappes russes dans plusieurs quartiers de la capitale ukrainienne. Ça intervient au lendemain d'autres frappes ukrainiennes, celles-ci, contre deux centres logistiques en Russie. Elles ont fait au moins 8 victimes. Kiev était donc sous les bombes cette nuit après une nouvelle soirée de manifestation. Pas que là-bas d'ailleurs, c'était aussi le cas à Lviv, à Kharkiv ou encore à Dnipro et Odessa. Le limogeage du populaire ministre de la Défense Mykhailo Fedorov ne convainc toujours pas, c'est même plutôt le contraire. Il énerve franchement. Les manifestants réclament son retour et dans le même temps le départ de celui avec qui il était en conflit et ce qui a entraîné sa mise à l'écart d'ailleurs, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Sirski. Reportage dans le cortège à Kiev d'Emmanuel Chaz.
Sirski dehors, c'est la demande pressante des Ukrainiens à nouveau rassemblés à Kiev par milliers. Parmi eux, Anton, un vétéran. Il est amputé des deux bras et d'une jambe, couvert de marques d'éclats d'obus et il a perdu un œil. Il explique.
Je suis ici, premièrement, parce que je ne suis pas en service actif. Je ne participe pas au combat car, comme vous pouvez le constater, je suis déjà blessé et inapte au service. Je suis ici pour que Zelensky revienne sur sa décision, rappelle Fedorov et limoge Sirski. Car Sirski fait subir à notre armée des atrocités dont je pensais que seuls les Russes étaient capables. Il est entouré d'une telle clique de courtisans, chacun doit lui rendre des comptes. Chacun devrait se prosterner à ses pieds et reconnaître en lui un excellent commandant. Mais en réalité, il n'en est rien. Et son régime, Skelia, est une véritable machine à tuer qui commet des actes honteux envers l'armée ukrainienne.
Le sentiment est partagé par l'ensemble des manifestants. Pour eux, l'armée ukrainienne doit être placée sous le commandement d'une personnalité plus soucieuse de la vie de ses hommes, à qui fait ce murmure que Volodymyr Zelensky serait en pleine consultation pour remplacer Oleksandr Sirski. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et Volodymyr Zelensky a bel et bien reconnu avoir mené de nombreuses consultations ces deux derniers jours et il annonce que des décisions concernant l'armée vont être prises. Pas plus de précision de sa part, mais les médias ukrainiens spéculent effectivement sur un remplacement d'Oleksandr Sirski. La punition américaine, car c'est bien, je cite, pour punir la mort de deux soldats américains lors de frappes iraniennes en Jordanie que les États-Unis annoncent avoir à nouveau bombardé la République islamique cette nuit. Téhéran, de son côté, annonce avoir attaqué deux bases militaires américaines au Koweït. Le guide suprême Mojtaba Ramenei menace dans un message écrit d'infliger aux États-Unis des leçons inoubliables. Pour lui, la signature de Donald Trump n'a aucune valeur, référence au protocole d'accord conclu entre les deux pays le mois dernier, mais qui semble bien fragile après déjà 8 nuits consécutives d'affrontements. À Gaza, un cessez-le-feu a lui été conclu en octobre dernier, et pourtant 11 personnes ont perdu la vie dans des frappes israéliennes hier. Bilan des autorités locales de l'enclave, parmi les victimes, un couple et 3 de ses enfants. Voilà qui ne devrait pas entamer la détermination du maire de New York, Zohran Mamdani. Hier, il s'est dit engagé dans des discussions actives avec les autorités new-yorkaises sur la possibilité ou non de faire arrêter le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en septembre prochain lors de sa visite dans la ville pour l'Assemblée générale des Nations unies. Netanyahou est, je le rappelle, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Et depuis, Israël a aussi fait la guerre à l'Iran, aux côtés donc des États-Unis. Et alors qu'une reprise officielle des hostilités semble se dessiner, chaque jour davantage un petit peu plus, se pose la question du rôle que pourrait jouer l'État hébreu. Ces derniers mois, l'armée israélienne s'est dite prête pour une reprise des combats. Mais l'est-elle vraiment? Car les soldats manquent. Et si le Parlement a allongé la durée du service militaire de 30 à 32 mois, ça ne suffira pas, selon le général Dado Bar Khalifa, chef de la direction des ressources humaines de l'armée israélienne. Les précisions depuis Jérusalem de Michel Paul.
Pour le général israélien, cette rallonge de 2 mois est certes une nécessité opérationnelle. Elle doit permettre de stabiliser les unités et donner un léger répit aux appelés comme aux réservistes épuisés par des mois de guerre sur plusieurs fronts. Mais le compte n'y est pas. L'état-major réclamait un retour aux 36 mois de service en vigueur avant 2015. Face à l'usure des troupes, les forces armées estiment qu'il manque urgemment 12 000 hommes, dont 7 000 combattants. Le chef des effectifs insiste, cette réforme ne remplace pas la nécessité d'élargir le recrutement à l'ensemble de la société, une formule qui cible directement la communauté ultra-orthodoxe. Actuellement, près de 70 000 jeunes religieux en âge de servir restent exemptés, un sujet hautement inflammable pour la coalition gouvernementale qui tente par tous les moyens législatifs de préserver les privilèges de son électorat religieux. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Sécurité régionale, gouvernance démocratique, intégration économique, voilà le programme à Lungi, près de Freetown, en Sierra Leone. C'est là qu'a lieu ce dimanche le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. On en attend une douzaine sur place et selon nos informations, le général Biram Diop, ex-ministre sénégalais de la Défense, devrait prendre la tête de la commission. À Sao Tomé et Principe, c'est pour élire celui qui va prendre la tête du pays que près de 150 000 électeurs se rendent aux urnes ce dimanche dans ces îles d'Afrique centrale. 4 candidats et 2 qui ont dominé la campagne, le sortant Carlos Villanova et le candidat de son ancien parti, Nito Dabreux, état des lieux avec Willy Diallo.
Dans cette élection, 2 branches de l'ADI, l'Action démocratique indépendante, se feront face dans les urnes. On a d'un côté le président sortant, Carlos Villanova, chef de l'État depuis 2021. Il se présente comme le candidat de la continuité en expliquant que ce second mandat va lui permettre de consolider le travail entrepris ces 5 dernières années. Il n'est plus soutenu par l'ADI, le parti qu'il a mené au pouvoir lors de la précédente élection. En janvier 2025, le président a limogé le gouvernement de Patrice Trovoada et perdu le soutien du parti. Il reprochait notamment à l'ancien Premier ministre ses absences répétées, un moment de crise institutionnelle dans le pays qui a connu 3 premiers ministres en une semaine. Depuis cette fracture, le parti donc est divisé entre d'un côté les soutiens du président et les soutiens du parti traditionnel de l'autre. Résultat, pour cette élection, Carlos Villanova est soutenu par une coalition de partis d'opposition, avec face à lui Nito Abreu, député soutenu par l'ADI. Lui est présenté à l'inverse comme le candidat du renouveau politique et soutenu par l'ancien gouvernement.
Et si aucun candidat ne franchit la barre des 50% des suffrages ce dimanche, eh bien un second tour est prévu le 9 août. Merci d'écouter RFI, il est 6h12 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans très exactement 18 minutes. Mais d'ici là, la chronique défense, on va parler de cette reconversion ô combien utile pour les hélicoptères de combat en France. Ils détruisent des drones maintenant. Et puis on va aussi parler des animaux et de leur tendance à l'infanticide, même s'ils ont parfois, disons, de bonnes excuses. Ne m'agressez pas pour avoir dit ça. On va tout vous expliquer dans la chronique de la biodiversité. Mais d'abord, on en parlait dans le journal, c'est bientôt fini. Et ce sera très certainement un crève-cœur pour les amoureux de football. Plus qu'un match à jouer à la Coupe du Monde masculine, mais pas n'importe lequel. Espagne-Argentine pour le titre à partir de 19h en temps universel. Ce sera à suivre en direct et en intégralité sur nos antennes africaines, comme ce fut le cas hier soir pour la petite finale, celle pour la troisième place, que s'adjuge finalement l'Angleterre au terme d'un match assez fou remporté 6-4 contre la France. C'est donc bientôt la fin d'une Coupe du Monde XXL, 104 matchs dispersés dans trois pays, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Les États-Unis, où le soccer, comme on l'appelle là-bas, est loin d'être le sport le plus populaire, hein, peinant à peine à rivaliser avec le football américain, le baseball ou encore le basket. Quoique, à Atlanta, où ont lieu plusieurs matchs, l'amour est visiblement né avec une partie des spectateurs. Reportage d'Edouard Maille.
Pied droit, pied gauche, Sydney s'entraîne à jongler sur ce terrain de foot dans un parc. L'adolescent joue au foot depuis longtemps ici à Atlanta, mais n'a jamais vu autant d'engouement pour son sport.
À chaque fois que je vais sur un terrain de foot, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde. On dirait que tout le monde se met au foot. Ce sport a pris une ampleur incroyable. Franchement, ici à Atlanta, on n'entend parler que de ça. Le foot par-ci, le foot par-là. C'est sans doute le phénomène numéro un du moment ici à Atlanta.
Il est venu avec un ami pour lui montrer comment manier le ballon. Son ami Harris avait un peu joué plus jeune, mais s'y est vraiment mis après être allé voir un match de la Coupe du Monde à Atlanta.
Je me suis dit que ce serait sympa d'essayer, alors je suis venu au parc et je me suis mis à jouer. C'est vraiment amusant. C'est clairement plus difficile que ça en a l'air, mais on prend vite goût au jeu.
Et Sydney a du mal à réaliser à quel point son entourage s'est mis à suivre la compétition.
Rien qu'hier, ma mère a passé près de 2 heures à essayer de me convaincre que l'Argentine était la meilleure équipe qu'elle ait jamais vue jouer. Alors qu'avant cela, elle n'avait jamais vu un match de foot, à part peut-être mes matchs. C'est juste magnifique de voir tout cela. Tous ces nouveaux fans qui s'intéressent vraiment à ce sport.
Allez, on se rassemble en cercle. Aujourd'hui, on va travailler plus particulièrement sur les corners et les coups francs. And we're gonna work
on free kicks. Kush Mansingh est l'entraîneur de ce groupe niveau débutant proposé par l'association Sons of Pitches.
Il y a toujours eu beaucoup d'intérêt, mais cet été, on voit davantage de gens s'inscrire et se mettre à jouer. Beaucoup cherchent à mieux comprendre comment fonctionne ce sport, et puis se rassembler, regarder les matchs ensemble, et aller jouer avant ou après un match de la Coupe du Monde.
Un sport qui n'est pas toujours très accessible, regrette Gabrielle Green, l'une des joueuses qui a démarré le foot en mars.
Je pense que le foot est sans doute l'un des sports les plus difficiles d'accès. Aux États-Unis, en tout cas, c'est un sport qui coûte cher, beaucoup plus cher que dans d'autres pays. Et puis, en termes de popularité, le football américain et le basket passent clairement avant. Du coup, c'est forcément plus compliqué de s'y mettre.
Certains Américains se demandent même qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'occuper une fois la Coupe du Monde terminée. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Oui, on se pose un peu la question ici aussi, je ne vous le cache pas. Un reportage à retrouver sur RFI.fr. C'était les 1er et 2 juin dernier sur le champ de tir de Biscarrosse dans les Landes. L'armée de l'air française a expérimenté les premiers tirs contre des drones depuis un hélicoptère de manœuvre. La lutte anti-drone offre un nouveau souffle aux hélicoptères militaires. Pour eux, la reconversion a commencé. Rediffusion de votre chronique Ligne de Défense avec Franck Alexandre.
La guerre au Moyen-Orient a servi de bascule. Dans l'urgence, des hélicoptères français ont été engagés dans la défense des Émirats Arabes Unis, des hélicoptères d'attaque Tigre de l'armée de terre, mais aussi des hélicoptères légers Fennec de l'armée de l'air ont fait mouche à tous les coups contre les drones Shahed iraniens. Alors, puisque les hélicoptères sont efficaces, tous les modèles sont désormais reconvertis à la lutte anti-drone. C'était le tour des Caracal. Ces gros hélicos, habituellement dédiés à la logistique, ont été lestés de mitrailleuses de sabord et se sont révélés parfaitement adaptés à cette lutte. Ce fut même plutôt facile, juge le lieutenant-colonel Laurent, en charge des nouvelles capacités pour les hélicoptères à l'état-major de l'armée de l'air.
L'enjeu pour les hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace en particulier a été d'adapter ces capacités de tir qui étaient soit tournées vers de l'appui-feu air-sol en opération extérieure, soit tournées vers des menaces qui étaient un petit peu différentes mais malgré tout assez similaires dans le cadre de la défense aérienne. Et l'enjeu a bien été de pouvoir adapter relativement facilement ces capacités-là face à du drone.
Pour que les hélicoptères servent de bouclier, il a fallu néanmoins moderniser une partie de la flotte en l'équipant d'une liaison 16, le système d'identification qui équipe tous les avions de combat.
On a vu au Moyen-Orient qu'il y avait énormément d'aéronefs qui étaient en vol dans le même espace aérien, que cet environnement, il voit des aéronefs alliés, mais également des menaces qu'il faut détruire éventuellement. Et pour ça, l'enjeu, il est bien d'éviter à tout prix le tir fratricide. Pour ça, on a fait un très gros effort sur la capacité de liaison 16, pour lesquelles nos hélicoptères n'étaient pas équipés jusqu'ici. En particulier dans le cadre de l'hélicoptère Fennec que nous avons engagé, en 48 heures, on a été en mesure d'équiper ces hélicoptères de cette nouvelle capacité pour pouvoir les intégrer au mieux dans ce dispositif.
La lutte anti-drone, c'est une défense multicouche, souligne le lieutenant-colonel Laurent, de haut en bas, chacun à sa place.
Alors, qui fait quoi? Ça part déjà au sol d'un dispositif de détection. Et ensuite, c'est tout un dispositif qui va partir de l'avion de chasse qui, lui, vole haut, loin, jusqu'à l'hélicoptère à proximité des côtes, qui, lui, aura des capacités d'identification et une capacité à se rapprocher. Et l'enjeu, il n'est pas d'avoir un hélicoptère qui soit exclusivement capable de traiter cette menace-là, mais bien de pouvoir utiliser l'ensemble des capacités qu'on a à notre disposition pour pouvoir les traiter.
Véritable alternative aux très coûteux missiles solaires, les hélicoptères prouvent qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. C'est aussi l'une des révélations de la révolution drone.
C'était Franck Alexandre. Le saviez-vous, les animaux aussi sont capables du pire, car l'infanticide, le fait de tuer un enfant, ça n'existe pas que chez l'homme. On en parle dans C'est dans ta nature avec Florent Guignard.
C'est pas le genre de fait divers qui fait les gros titres des journaux, et pourtant il y en a tellement, près de la moitié des mammifères pratiquent l'infanticide. Surtout chez les carnivores, mais il n'y a rien d'alimentaire. Surtout chez les primates et tous les animaux qui vivent en groupe, sous la coupe d'un mâle dominant. Mais les tueurs ne sont pas psychopathes. L'infanticide n'est pas une anomalie, mais une stratégie évolutive.
Bernard innocent.
Oui, quand un lion ou un chimpanzé tue les petits d'un rival, il élimine la concurrence. C'est pour transmettre ses propres gènes. Un quart des lionceaux qui meurent la première année sont ainsi victimes d'infanticide. Et puis une femelle qui allait, elle n'est pas fertile, en la privant de son petit, on la rend très vite disponible à la reproduction.
Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous des âmes.
Mais du point de vue des femelles, la maternité représente un investissement coûteux. Pour fabriquer un ovule, il faut bien plus d'énergie qu'un spermatozoïde. Et les femelles de certaines espèces ont développé des stratégies pour éviter les infanticides. Chez les mangoustes, par exemple, où c'est une femelle qui domine, les naissances sont synchronisées. Tous les petits naissent en même temps pour éviter la tentation de l'infanticide. Dans un terrier partagé, difficile de savoir qui est qui. Chez les bonobos, les femelles multiplient les partenaires, chaque mâle pensera qu'il peut être le père et dans le doute, il s'abstiendra, ce qui a une conséquence inattendue. La sélection génétique passe alors par la taille des testicules.
Tu crois qu'il a un gros bazar ?
15% plus gros que ceux des chimpanzés.
Parce qu'en phalex, il a un très gros kiki.
Des loups jusqu'aux souris, des phoques jusqu'aux dauphins, l'infanticide n'est pas un crime, c'est dans la loi de la nature. Mais jamais un mâle ne tuera son propre petit, une seule espèce fait exception, l'espèce humaine. Allez, on se détend et on passe à la question.
J'ai dans la tête un oiseau qui te dit tout, viens danser sous les soleils des tropiques.
Pourquoi les oiseaux sont colorés sous les tropiques?
Oui, des couleurs éclatantes, des plumes rouges, jaunes, vertes ou bleues, un arc-en-ciel aviaire, c'est ce qui frappa les premiers naturalistes européens. Et c'est vrai, plus on s'approche de l'équateur et plus il y a de la couleur. Trois explications. Sous les tropiques, les fleurs offrent davantage de nectar et les oiseaux mangent plus de fruits. C'est bon pour la santé, c'est bon pour les couleurs. Il y a aussi tellement d'espèces en milieu tropical qu'il faut savoir se distinguer. Enfin, les forêts tropicales, particulièrement denses, permettent aux oiseaux de se camoufler tout au long de l'année, alors que sous climat tempéré, de nombreux arbres perdent leurs feuilles. Et quand l'hiver arrive, il faut se fondre dans le paysage. La mode automne-hiver évite les couleurs flashy.
Qu'est-ce qu'on est bien, tout est beau.
commencer une chronique avec le mot infanticide et le terminer avec du Gilbert Montagnier. Il fallait le faire et le faire bien. Eh bien, c'est fait. Merci à vous, Florent Guignard. Dans la chronique Vivre ailleurs, on vous parle ce matin, ou plutôt on vous parle souvent de cette publication en ligne dédiée aux expatriés francophones, lepetitjournal.com. Eh bien, une nouvelle édition a vu le jour au Panama. Cette fois, Sacha Carion en est le responsable. Il parle objectif avec Corinne Manjou.
Je suis arrivé mi-février et tout est parti un peu d'un projet de correspondance que j'ai élaboré l'année dernière. Après avoir été journaliste dans plusieurs rédactions, notamment un courrier international et Geo Magazine, j'ai développé un projet de correspondance en tant que journaliste, donc pour d'autres médias avec qui je travaille actuellement, et m'est venue l'idée de proposer une nouvelle édition panaméenne à Hervé Hérault, le directeur du journal, après m'être rendu compte à travers mes lectures que le Panama commençait à devenir un peu un favori parmi les grands favoris en Amérique latine pour l'expatriation. Voilà, donc je suis actuellement correspondant Amérique centrale pour des médias français et francophones, et en même temps, je suis le responsable de l'édition panaméenne. Pourquoi le Panama ? Le Panama, je connaissais déjà un petit peu. J'ai fait mon premier stage en journalisme au Panama en 2021. J'avais quelques connaissances que j'ai rencontrées en Erasmus quelques années avant en Espagne. Donc c'est tout un cheminement de relations sociales qui m'ont mené au Panama. Puis c'est aussi une région qui est encore peu connue et qui, je pense, mérite de l'être un peu plus.
Dans quel autre pays vous avez été ?
En licence en troisième année, j'ai fait un Erasmus à Saragosse en Espagne pendant un an, que c'était en 2019-2020. Voilà, donc c'était ma première expérience à l'étranger et pendant une assez longue période. Sinon, au niveau des pays visités en Amérique latine, j'ai le Mexique pour le moment et voilà, il me reste encore plusieurs destinations à découvrir autour de cette région.
Quel est le projet que vous avez pour dupetitjournal.com au Panama et dans la région ?
Comme c'est une toute nouvelle édition, il faut répondre à des standards qui sont déjà établis dans les éditions globales du dupetitjournal.com. Donc, avant tout, c'est surtout des conseils pratiques, tout ce qui est comment scolariser ses enfants, comment apprendre l'espagnol aussi, quand on s'installe, comment ouvrir un compte bancaire, des questions que tout futur expatrié peut se poser avant d'arriver dans le pays de destination. Ensuite, l'idée, c'est aussi de promouvoir la culture panaméenne, la vie panaméenne, et en même temps donner un rendu de l'actualité panaméenne, et évidemment une actualité qui peut plus ou moins concerner la communauté française et francophone au Panama. Et après, tout ce qui est sortie, découverte culturelle, ou même simplement promouvoir des francophones qui ont des projets qui méritent d'être un peu plus connus dans le pays. Voilà. Ensuite, ouvrir un média sans être présent sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué. C'est une nouvelle manière de fonctionner dans l'espace médiatique aujourd'hui. J'ai ouvert la page Facebook et Instagram du journal.com Panama. L'idée, c'est d'adapter les articles publiés sur le site web et en même temps aussi de faire de la vidéo, parce qu'aujourd'hui la vidéo est essentielle, les formats courts. Donc voilà.
Pour le moment, vous êtes seul, mais prévoyez d'avoir une équipe à terme.
À ce stade, je suis tout seul. Tout seul, c'est beaucoup plus simple. J'attends de développer le média à un certain point avant d'emmener quiconque dans mon équipe. En tout cas, ça serait un souhait à moyen, à long terme. C'est quelque chose qui pourrait être sympa d'avoir quelques personnes en plus dans l'équipe.
Qu'est-ce qui vous plaît beaucoup dans cette région que vous ne retrouvez pas en Europe et en France ?
Son climat, je pense. Le climat, je le trouve relativement agréable, qui peut être un peu rude au début avec la chaleur humide, mais on s'y fait assez facilement. La proximité avec les espaces naturels. Les espaces naturels sont très nombreux et facilement accessibles depuis la capitale, la Panama City ou Ciudad de Panama. Les distances sont courtes, donc c'est aussi agréable aussi bien pour les activités privées que pour le travail, pour ce déplacement en reportage. Et en même temps aussi, il faut le dire, c'est aussi pour ça que le Panama attire les expatriés, c'est que c'est un pays qui est relativement stable et sûr au niveau sécuritaire, contrairement à d'autres pays de la région où c'est un peu plus complexe. Alors tout n'est pas parfait au Panama, il y a des zones un peu plus sensibles, mais globalement, il y a quand même une stabilité qu'on ne retrouve pas ailleurs.
À Sacha Carion, responsable de l'édition panaméenne de lepetitjournal.com, il répondait à Corinne Manjou. Et comme chaque dimanche sur RFI, l'émission L'Atelier des médias sera diffusée à 11h10 en temps universel. Et comme chaque dimanche aussi, tôt le matin, on vous en propose un extrait. Cette semaine, direction le Honduras pour un reportage consacré aux radios communautaires. Comme leur nom l'indique, ces stations locales sont gérées par des communautés et pour ces mêmes communautés. Elles font face à de nombreux défis, mais défendent leur raison d'être. Écoutez Horacio Martinez, directeur de radio Waruguma, qui est géré par des membres du peuple Garifuna, des descendants d'Africains réduits en esclavage et qui se sont réfugiés au Honduras au XVIIIe siècle, après avoir fui les plantations de canne à sucre aux Antilles.
La radio est importante car